بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
Chers sœurs en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité donc de nous réunir en ce soir après la Surat al-Isha donc pour parler quelques instants des commentaires du Coran de Surat al-Mutaffifin. Et la dernière fois, on avait commenté les trois premiers versets de Surat al-Mutaffifin. On avait expliqué que le sens apparent, le sens premier de Mutaffifin, traduit en français par fraudeur. Et quand on parle de fraudeur, on répète un petit récapitulatif de ce qui avait été dit la dernière fois, quand on parle de fraude, ce qui nous vient à l'esprit, c'est quelqu'un qui vole, quelqu'un qui triche à l'égard de son prochain. C'est vrai, le sens premier qui a été cité dans le Coran, c'est celui qui fraude. Et très souvent, le verset est utilisé pour la personne qui trompe son prochain dans les poids, dans les mesures, lorsqu'on pratique le commerce. Mais lorsqu'on analyse les commentaires des Mufassirin sur ce verset, nous voyons que, selon eux, le terme mutaffifin, fraudeur, est certes utilisé pour ce cas de figure, mais il est également utilisé pour la personne qui agit de manière injuste, qui a un comportement illogique et déséquilibré par rapport à son prochain concernant les droits et les devoirs. Et le mutaffifin a été décrit dans le verset qu'on avait commenté la dernière fois, الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. Qu'est-ce qui distingue ces gens? C'est lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes, ils exigent la pleine mesure. Et qui, lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, leur cause perd. C'est-à-dire une personne qui a un comportement, comme on a dit tout à l'heure, déséquilibré, injuste. C'est-à-dire que quand il réclame son droit, il réclame l'intégralité de son droit. Il n'est prêt à faire preuve d'aucune concession sur quoi que ce soit. Mais lorsque c'est lui qui doit donner aux gens, là la personne va tricher, va tromper son prochain. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas, c'est-à-dire il agit avec les autres comme il n'aime pas que les autres agissent envers lui. Et par analogie, Mufassirin disent que on peut calquer, on peut trouver le même comportement chez un père de famille, chez un mari, ou alors chez une femme, chez quelqu'un qui a des relations avec une autre personne, qui exige la totalité de ses droits, mais qui, lorsque c'est lui qui doit donner les droits à son prochain, là la personne fait preuve d'injustice. Un mari sera qualifié de mutaffif, de fraudeur, s'il exige tous ses droits de la part de son épouse. Il dit à son épouse, tu as des devoirs envers moi et je veux que tu les respectes à la lettre et que voilà, il n'y a aucune concession là-dessus. Tu fais ton travail de femme, etc. etc. Bon. Ça, c'est un comportement. Mais ce qui est paradoxal, c'est que lorsque lui doit donner les droits à son épouse, ben là, il est aux abonnés absents. Là, il y a des manquements dans ses devoirs envers sa femme. Si sa femme a besoin de quelque chose d'important pour la maison ou pour elle-même, concernant sa santé, concernant quels que soient les besoins, là, la personne fait la sourde oreille, la personne ne répond pas présent. Le père, un papa, peut être qualifié de mutaffif, de fraudeur, s'il exige un total respect de la part de ses enfants, mais lui-même est aux abonnés absents quand ses enfants ont besoin de lui. Il ne donne pas de temps, il ne consacre pas un peu de sa vie à ses enfants. Il veut que ses enfants le respectent, mais lui ne donne jamais du temps à ses enfants, il ne donne pas à ses enfants les droits qu'ils méritent par rapport à leur père. Donc tout ça, c'est qualifié comme étant mutaffif. Et ce qu'on avait dit la dernière fois également, et c'est sur ce point que le commentateur du Coran, de ce tafsir, il insiste, il dit qu'il y a beaucoup de maris, dans ce cas, qui sont très exigeants envers leurs épouses, mais ils font preuve de manquements énormes dans les relations de couple. Et le Mufassir a rappelé que le prophète alayhi salatu wassalam a, durant toute la prophétie, durant toute la vie, toute sa vie, lorsqu'il a propagé, lorsqu'il a prêché, il rappelait en permanence les droits de la femme, les devoirs du mari envers la femme. Parce que très souvent, le mari a tendance à réclamer ses droits. Mais on oublie parfois les droits de nos épouses. Et le Mufassir rappelle que le prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'au dernier moment de sa vie, le dernier grand rassemblement, c'était quand le dernier grand rassemblement? Le pèlerinage d'adieu, le Hajj al-Wada, lors du Wukuf Arafah, où il y avait le plus grand nombre de sahaba qui n'ont jamais été réunis dans un même endroit. À ce moment précis, le prophète alayhi salat wa sallam savait intérieurement que c'était sa dernière prêche, qu'il était dans les derniers moments de sa vie. Il devait donc faire un rappel important pour les musulmans qui sont venus de tous les endroits où la hidayah est arrivée, est parvenue. Il devait faire un rappel qui marquera le cœur de ces gens qui se sont déplacés pour le Hajj. Et parmi ces rappels qu'il a jugé nécessaire et important de faire, c'était ittaqullah fil nisa, craignez Allah concernant les femmes. Donc c'est sur ce sujet-là qu'on doit, je pense, surtout à notre époque où il y a plein de choses, tellement de choses qui se disent dans notre, à propos de notre religion concernant les relations hommes-femmes, et il y a malheureusement tellement d'écarts de comportement dans les couples qui mènent très souvent au talaq, au divorce. Et très souvent, lorsqu'il y a des gens qui nous contactent pour essayer de trouver une solution de leur problème de couple, on se rend compte que très souvent, l'origine des problèmes, c'est l'absence de Cheikh Ali, l'absence de d'argent? Non, c'est pas l'absence d'argent. L'absence de pouvoir? Non, c'est pas l'absence de pouvoir. De notoriété, de diplôme, de rang social, de belles voitures, de piscine avec ma maison, de villa? Non, l'absence de dialogue. Très souvent, dans le couple, le mari se renferme sur lui, la femme se renferme sur elle-même. On appelle ça, les psychologues, ils appellent ça un couple introverti, et qui sont renfermés sur eux-mêmes. Ça peut être un trait de caractère qu'une personne soit timide, réservée, mais dans une relation de couple, on doit être capable d'échanger. J'allais dire, être capable de tout se dire. Oui, tout se dire, mais tout se dire de façon correcte, respectueuse. Il faut qu'il y ait quand même le respect mutuel. Quand un mari constate un manquement ou quelque chose qui le gêne par rapport à son épouse, il doit être capable de communiquer avec elle, de discuter. Mais réciproquement, lorsque la femme voit également un problème, par exemple, la femme se plaint que son mari rentre tous les soirs à 23h, il travaille trop et qu'il ne donne pas de temps à la famille, etc., etc., et que quand c'est les vacances, il va avec, je ne sais pas, il n'est pas disponible non plus, là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et très souvent, on finit par être perturbé par la notion de sobre, de patience. Il y en a qui disent, oui, mais fais ça, sois patiente, c'est ton mari, respecte-le. Oui, sois patiente, respecte-le, mais s'il y a un problème à la base dans le couple qui ne va pas changer parce qu'on n'a pas fait de remarques, on n'a pas exprimé le malaise, et qui donc risque de perdurer dans le temps et de s'amplifier, et qui peut causer une rupture dans le couple. Il faut absolument parler. Quand la femme ressent un malaise dans la famille, sous le toit familial, ça peut être en rapport avec sa personne, ça peut être en rapport avec les dépenses de la maison, ça peut être en rapport avec la présence physique, la présence même du mari à la maison, il faut absolument en parler. Cela évite d'arriver à des points très souvent, malheureusement, de non-retour. On est tellement parti loin dans les problématiques où il y a tellement eu un dialogue de sourds qu'à un moment donné, lorsqu'on essaie de rétablir le dialogue, on se rend compte que ce sont deux entités totalement opposées qui n'ont jamais dialogué depuis longtemps, et lorsqu'on les met en face pour parler, les seules choses qui sortent de leur bouche, ce sont des reproches et des insultes. Alors que s'il y avait un dialogue permanent, ça aurait été plus simple. À imaginer une poche d'eau énorme, où il y a une goutte d'eau qui coule toutes les secondes, et qu'il y a, je crois, 500, 600 litres d'eau dedans, d'accord? Si on a une petite ouverture où il y a de l'eau qui s'écoule régulièrement, c'est gérable. Mais si on laisse gonfler, et puis tout d'un coup on essaie de tout mettre à plat, toute l'eau va sortir, ça va être une inondation. Mais c'est pareil dans les relations humaines. Donc, c'est une image, une métaphore pour qu'on comprenne que le dialogue est extrêmement important. Et ce qui est extrêmement important, c'est pas le sujet du jour, mais comme on parle du fait d'avoir la crainte d'Allah concernant notre épouse, il y a un hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam, il avait Il était avec Aïcha radiallahu anha, qui lui avait raconté une histoire, l'histoire d'une de ses amies. Et c'était une histoire qui était longue, 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 longue. Quand on voit le hadith, ça fait plusieurs pages. Et c'est comme si l'histoire n'avait pas de fin. Elle parlait, discutait, elle racontait. À aucun moment, les muhaddithines disent, regardez l'attitude du prophète alayhi salatu wassalam. À aucun moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé, mais son histoire, elle est encore longue. Ou, ben, c'est, je t'ai écouté depuis longtemps, est-ce qu'on peut pas parler d'autre chose? Non, le prophète ne l'a pas interrompu. Il s'est montré patient vers elle et a écouté tout ce qu'elle avait à dire. Et nous, malheureusement, qu'Allah me pardonne moi-même en premier, très souvent, on est à l'écoute des gens, d'accord? Avec les amis, on est le confident de tout le monde. Avec les collègues, on est là, on met l'ambiance, on est, hein. Mais quand on arrive à la maison, c'est comme si, écoute, je sors du travail, je sors avec des gens. Écoute, mon coco, il est plein, hein, sous le bas. La première chose qui rentre, c'est, regarde mon figure, là. Il est fatigué, pose pas de questions. Laisse-moi tranquille. Mange, il est prêt. Mais s'il n'est pas prêt, bon, mis ça, quick halal et tout, autre chose, prends quelque chose à manger. Mais viens pas saouler les coups de ben problèmes de la journée. Non, 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 c'est, malheureusement, c'est un constat, c'est une réalité. On ne doit pas rentrer à la maison. Oui, on a le droit d'être fatigué. Mais il ne faut pas oublier que quand un mari rentre du travail, il rentre à 18h, 19h, il a été absent une demi-journée ou une journée. Hein, s'il n'a pas fait de pause, il ne rentre pas chez lui entre midi et deux. Et quand il arrive, ben, subhanallah, cette épouse, mashallah, épouse vertueuse, si c'est une femme au foyer qui s'occupe de sa maison, qui s'occupe de ses enfants, comme mashallah, c'est l'idéal pour une femme musulmane, et c'est tout à son avantage, et c'est une source inépuisable de récompense, et c'est une garantie, inshallah, également, de présence, de foi dans le cœur de ses enfants. Si la maman est à la maison, elle peut inculquer les bonnes valeurs à ses enfants, hein, tandis que si elle est à l'extérieur, elle rentre en midi et deux, elle ne rentre pas, elle-même elle est épuisée. Lorsqu'elle rentre, elle est off. Elle est épuisée, elle sort du travail, mais quel temps elle va donner à ses enfants? Et très souvent, quand une maman travaille, les enfants ils mangent où? Dites-moi. Quand le papa travaille, la maman travaille et qu'il ne rentre pas en midi et deux, les enfants mangent à la cantine. Et Allah seul sait ce qu'ils mangent. Cheval ou je ne sais pas quoi, bon, ça c'est une problématique, mais le poulet, le bœuf, le cabri, hein, combien d'élèves on a à la madrasa, on demande t'as mangé quoi à midi, j'ai mangé poulet. Il a dit, ben, est-ce que c'est halal? Il a dit, mais c'était pas du porc, c'est du poulet, moi ils savent. Il dit, oui, mais le poulet, il m'a dit, c'est ton papa qui l'a coupé? Il a dit, non, mon papa il travaille pas là-bas. Il a dit, oui, je comprends, je sais qu'il travaille pas là-bas. Mais c'était pour te faire comprendre, mais est-ce que tu es sûr que c'est un musulman qui l'a coupé? Il a dit, ah ben je sais pas, papa, à un moment, on m'a inscrit à la cantine et je mange. Il a dit, oui, mais je dis, ben mange végétarien. Il a dit, mais l'a payé. Et ça appelait son gros cuisse poulet ou son morceau de cabri ou son morceau de bœuf. Ben voilà, tout ça c'est les conséquences un peu de l'absence des parents à la maison. Tandis que si on a une maman à la maison qui est présente, papa, on ne dit pas qu'elle est présente pour nettoyer, astiquer la maison et faire toujours des festins. Non, c'est pas ça le but. C'est pas ça non plus le rôle d'une maman. Mais qu'elle donne du temps à ses enfants, qu'elle soit présente, elle prépare ses enfants qui vont à l'école, elle les accueille le midi, elle les accompagne pour repartir, elle les accueille à ses heures. Elle aide ses enfants à préparer leur sabbat ou ce qu'ils ont à faire pour la madrasa, etc., etc. Mais ça, c'est une, alhamdoulilah, c'est une dame, une maman qui remplit pleinement son rôle d'épouse et de mère. Et c'est tout à son avantage. C'est une source inépuisable de récompense. Et si elle donnera l'éducation correcte, le tarbiya islamiya, l'éducation islamique correcte à ses enfants, inshallah, elle est en train de préparer une génération de musulmans. Ça, c'est la plus grande da'wah. Et c'est la première responsabilité. Qui a plus de droits sur moi? Mes enfants ou alors les gens de le quartier? Oui, il faut aller vers les gens, il faut faire des explications, faire des programmes. Mais le premier devoir, c'est « Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ». Protégez-vous et protégez votre famille du feu. C'est-à-dire le feu de l'enfer. Donc le premier devoir, c'est envers soi-même. Et juste après, c'est le devoir envers les gens sous notre toit, nos proches, c'est-à-dire ma femme, mes enfants, et puis la famille proche, la famille éloignée. Donc, d'accord, donc ça, c'est là la priorité. Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, quand une épouse vertueuse, une maman vertueuse, elle attend son mari depuis le matin jusqu'à 18h, ou alors depuis midi jusqu'à 18h, ben, elle est là, elle a fait tout ce qu'elle peut pour la maison, pour le foyer, pour que tout le monde soit content lorsque la famille se retrouve le soir. Maintenant, si son mari arrive avec une figure décomposée, et comme j'ai dit, on a le droit d'être fatigué, mais on n'a pas le droit de ne pas être disponible. On a le droit d'être fatigué, mais on n'a pas le droit d'être indisponible. que quand on rentre, on dit que je ne veux rien entendre. C'est-à-dire toute la journée, elle attend le retour de son mari pour lui parler des différentes choses concernant la famille, la maison, les problématiques. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comme le prophète Ali salatu wassalam avait écouté Aïcha radiallahu anha, et dans d'autres circonstances aussi, il est du devoir du mari de donner de son temps. Mais la société est organisée de la sorte, malheureusement. Les loisirs sont tellement importants qu'ils nous font oublier les valeurs humaines. C'est exactement comme à l'époque, les Romains, les trucs comme ça. On donne au peuple du pain et des jeux. On donne au peuple du pain et des jeux, et le peuple arrête de réfléchir. Le peuple ne pensera pas au développement de la société, ou alors est-ce que tout est bien géré, la politique, ou autre chose. On ne parle pas de politique, bien sûr, mais il y a tellement de loisirs qu'on finit par oublier les valeurs les plus importantes. Quand on rentre à la maison, ben on a la télévision, on a Internet, on a Facebook, on a Twitter, on a MSN, on a nos textos, on a WhatsApp, on a la Wii, on a je ne sais pas quoi, tellement de choses que chacun se retranche dans son monde. Les enfants, c'est avec la DS, la maman, c'est le feuilleton brésilien ou je ne sais pas de quel pays, et le mari, c'est les actualités, et ensuite c'est la Ligue des Champions, ensuite c'est tel match ou alors tel truc. Le meilleur cas de figure, c'est qu'on trouve à la télé un programme commun qui réunit papa, maman et enfants. Et ça, c'est très rare. Et même s'ils sont réunis, mais ils sont réunis autour d'un petit carré et ils sont en train de regarder. Ils ne communiquent pas, ils discutent entre eux. Même à table, Allah musta'an, à table aussi, on ne parle pas. Les gens, il y a des fois, ils mangent ensemble, des fois, ils mangent tout seuls. Bref, le gros souci de notre société, c'est l'absence de dialogue. Alors que la base, c'est les échanges. La base, c'est le dialogue entre le père et son fils, entre le père et sa fille. Il y a des fois où le fils a un gros problème. Il a 16 ans, on va dire, il vient d'entrer au lycée, d'accord ? Il est un peu perturbé parce que, au collège, c'était lui le caïd. Il était 4e, 3e, c'était lui qui fait la loi, et il contrôle. On connaît comment ça se passe. Mais quand on arrive en seconde, on a quitté tel quartier, on est parti au Buton, on est parti pas à quel endroit, déjà on n'est plus dans notre quartier, et on a des grands, les premières, les terminales, on a une certaine pression, et du coup, on devient les petits, on devient les faibles. Donc voilà, et il y a des règles qui vont s'imposer, et il y a des choses qui se passe, qui peuvent le perturber. Il y a les premiers trafics de Zamal, il y a les premières bières échangées entre camarades, il y a les premières, d'accord, propositions d'adultère, de zina, il y a tout ce monde qui s'installe. Et je suis gentil, je parle de la seconde, alors que c'est à partir de la 5e, 4e que tout ce monde se met en place, malheureusement, et que les parents ne sont jamais au courant. Et donc, cet enfant, ce fils de 15-16 ans, il est perturbé, parce qu'il va voir des choses qu'il n'avait pas l'habitude de voir. D'accord ? Il va être face à des tentations qu'il n'a pas connues avant. Et que la règle, quand on est avec les amis, c'est que si tout le monde boit une bière, on boit. S'il y a un petit zamal, un joint qui circule, si tu prends pas une taf, tu passes pour un steak. Ça, c'est mes élèves qui disent, j'avais des expressions un petit peu arriérées, ils disent non, mais ça, je vais dire, passe-moi un steak. Elle dit, un steak, c'est vraiment un loser. C'est vraiment, le gars, il est déconnecté. Si tout le monde est avec une tantine, une fille, et où il est tout seul, il y a deux possibilités. Soit tu es pour le mariage pour tous, soit tu es coincé. Tu n'as pas une sexualité épanouie. Donc, il y a des fois où lui, il a reçu une bonne éducation de ses parents. Il a reçu une bonne éducation de ses professeurs à l'école coranique, à la madrasa, ses fundis, ses moulissab. Mais il y a la pression, j'allais dire la pression sociale, la pression des amis, qui est telle que si tu ne fais pas comme eux, tu es mis de côté. Et rien de pire, il n'y a rien de pire qu'au sein d'un groupe, qu'on soit mis de côté. Ça, c'est le pire des cas de figure. Vaut mieux être mauvais. Mauvais en maths, en français, en histoire, jouer, être le dernier, être retenu, avoir des doigts de colle et tout. Mais qu'on est in, on est avec tout le monde, on est respecté, on est dans le groupe, plutôt que d'être exclu. Ça, c'est la pire des choses. Et donc, ce jeune ne veut pas être exclu. Mais en même temps, il a appris des choses. Il a des valeurs, il a une éducation, il a des bases, mais il ne veut pas les perdre. Donc, il est dans un dilemme. Il ne sait pas quoi faire. Mais dans ce cas de figure, il aurait eu besoin vraiment de son papa qui entame le dialogue, qui parle avec son enfant, qui communique, qui le laisse s'exprimer et qui a surtout une oreille attentive. Mais quand il voit le papa rentrer du travail et il va à masjid, c'est très bien. Mais après cela, namaz, il reste avec ses amis, il parle et tout. Quand il rentre, l'actualité, c'est telle chose, il est fatigué, il ne veut rien entendre. Mais il voit, il comprend clairement qu'il ne peut pas compter sur son père. Et donc, l'enfant va gérer seul. Mais il n'a pas à gérer seul. Ce n'est pas à lui de gérer ses problèmes seul. Ce sont là des problèmes d'une gravité énorme qu'on ne soupçonne pas, des problèmes qui n'ont jamais existé dans les générations avant. Je me rappelle, à l'époque, on était encore au collège. D'accord, un jeune de Dieu, ben, celui qui avait un paquet de cigarettes, il le cachait. Celui qui avait un paquet de cigarettes, un jeune de troisième qui avait un paquet de cigarettes, il le cachait, il faisait en sorte que personne ne le voit. Parce que fumer, c'était quand même quelque chose de mal perçu pour un jeune de 15 ans, 16 ans. Maintenant, fumer, qui fume pas? Maintenant, fumer, c'est devenu quelque chose de banal. Et ça va même plus loin maintenant. Comme je vous ai dit, c'est très tôt, dès le collège, qu'il y a les premiers échanges de examens et tout ça, les premiers trafics se mettent en place très tôt. Donc, bref, c'est des situations très graves. Et un jeune qui commence à entrer dans ce cercle vicieux, ben, très souvent, il ne s'en sort pas. Et très souvent, ça peut être l'origine de l'échec scolaire. Alors nous, papas, là on parle des papas un peu, ben on est exigeant, on veut que l'enfant réussisse à l'école. La seule chose qui nous importe, c'est le résultat. Il faut qu'à chaque trimestre, il ait la moyenne générale et qu'à la fin de chaque année, il passe de classe en classe. Jamais qu'il ne redouble. Ça, c'est ce qui est impératif. Mais le reste, ce qui se passe par derrière, ça ne regarde pas. Et puis en fonction des familles, si c'est une famille aisée ou moins aisée, bon après il y a d'autres automatismes, si c'est une famille aisée, du moment que l'enfant a de bons résultats, on va lui donner des choses. Comment va être la récompense? C'est pas avec le cœur, c'est pas avec la présence du papa, non, c'est avec des choses. Hein, on va lui donner sa première moto, on va lui donner ses consoles, ce qu'il veut, on va lui permettre de passer son permis 16 ans, on va lui permettre d'avoir une petite voiture, etc., etc. Et on pense qu'en donnant du matériel, on est en train de remplir notre rôle de père, mais non. Ça ne remplacera jamais la présence et le réconfort, la présence physique et psychologique d'un papa. Et ça, c'est important. C'est pour ça aussi que les psychologues, ils étaient un peu hésitants concernant les couples homosexuels qui veulent adopter un enfant. Maintenant, ils sont un petit peu muselés parce qu'ils ne peuvent plus trop parler. Mais tout le monde comprend qu'il y a un déséquilibre. Dans un couple, il faut un papa et une maman. D'accord? Parce que chacun a des sifas, des qualités, une vision des choses, et l'éducation, l'apport des deux sur le plan psychologique est essentiel pour que l'enfant connaisse un équilibre dans sa tête et un plein épanouissement. Donc, on revient vers le sujet, ça c'est extrêmement important de ne pas être un motafif, un fraudeur dans notre rôle de mari, ni d'être un motafif dans notre rôle de père, de papa, ni d'être un motafif dans notre rôle de commerçant ou dans nos relations mu'amala avec les gens. Et donc, la mise en garde qui vient contre les personnes qui font preuve de motafif, de fraude, comme on a décrit, c'est le verset qu'on a lu, ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim. La première mise en garde, cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités? La première mise en garde qu'Allah Ta'ala il fait dans ce verset à propos de cet écart de comportement, c'est ô être humain, vous qui agissez de manière injuste, n'oubliez jamais qu'un jour vous serez ressuscité. Mab'uthun al-ba'thu wa an-nushur, le fait d'être ressuscité, c'est quoi? C'est qu'après la mort, lorsque le corps redevient poussière et qu'il ne reste qu'un morceau d'os dans le corps humain, Allah Azza wa Jal redonne vie à la personne. Le corps va se reformer, l'âme va retourner dans le corps et la personne va se relever. C'est ce qu'on appelle la résurrection. La personne va être ressuscitée pour être présentée devant Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est une croyance de base. C'est la croyance de base concernant Al-Iman ou Bil-Yawm Al-Akhir, la croyance en l'au-delà. Pour croire au paradis et à l'enfer, il faut avant tout être persuadé, avoir la foi qu'un jour Allah va nous ressusciter. Et si on analyse cette branche de la foi, qui est la résurrection, nous comprenons tout de suite. Ce qui est clair, que si quelqu'un ne croit pas à la résurrection, la personne n'est pas musulmane. Ça, c'est, il n'y a pas de doute là-dessus. Quelqu'un qui ne croit pas à la résurrection, la personne n'a pas d'iman. D'accord? Et si on parle de résurrection avec un docteur, avec un scientifique ou autre chose, ou un biologiste, la personne va vous dire tout de suite, mais c'est du n'importe quoi, monsieur. Qu'est-ce que vous racontez? Quand une cellule est détruite, quand un corps n'a plus de vie et que le corps s'est décomposé et le corps est devenu poussière, ben il est impossible. Une cellule morte ne peut pas revivre. Ça ne se trouve pas dans la nature. Et là, nous voyons tout de suite l'opposition qu'il y a entre notre iman et la logique et les sciences humaines. Et pourquoi il y a une opposition? Parce que les sciences humaines, ce qu'ils prétendent être les sciences, la logique, etc., etc., c'est basé sur ce qu'ils voient, sur ce qu'ils ont pu constater, ce qu'ils peuvent mesurer, ce qu'ils peuvent analyser, les expériences qu'ils peuvent faire dans les laboratoires, d'accord? Mais tandis que notre iman, notre foi, est basée entièrement sur al-ghayb, l'invisible. Et c'est là une des qualités premières citées dans la sourate al-Baqarah, alladhina yu'minuna bil-ghayb, ceux qui croient en l'invisible. C'est-à-dire que si dès le départ, on n'accepte pas l'invisible, on se dit que, écoute, moi je crois que ce que je vois. Si ce n'est pas prouvé scientifiquement, je ne crois pas. Vous croyez en Dieu? Vous l'avez vu, votre Dieu? Vous l'avez entendu? Vous l'avez rencontré? Non, si vous n'avez pas vu, vous ne l'avez pas rencontré, vous ne l'avez pas entendu, comment croire ce que vous ne voyez pas? Si on commence à adopter cette logique qui mène vers le coup, vers le chiffre, ben on aura, et s'il y a une présence, une infime présence de cette logique humaine, malheureuse, dans notre cœur, on n'aura jamais une foi complète. Et déjà, si quelqu'un se base uniquement sur les faits prouvés scientifiquement, la personne ne peut pas croire à la résurrection. Parce que comme on a dit, la résurrection est quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement. Mais il y a tellement de choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Et il y a tellement de choses qui sont prouvées scientifiquement aussi, qui ne sont pas vraies. Qu'après quelques années, nous constatons que c'était là des erreurs médicales ou des erreurs de scientifiques. Combien de médicaments ont été distribués depuis 50 ans? Et jour après jour, année après année, on se rend compte que telle molécule n'était pas adaptée, ça provoque des cancers, ça provoque des problèmes cardiaques, ça provoque tel problème. Vous voyez l'histoire des pilules là récemment? Ça provoque des cancers du sein, ça provoque des tel problème. Et les médicaments pour le cœur, enfin on ne va pas dire les noms, tel médicament pour le cœur, etc., etc. Ça, voilà, scientifiquement, les scientifiques, les professeurs d'université, de biologie, de je ne sais quoi, ils ont donné l'aval, l'accord, que ça c'est un produit très bien. Vous consommez, vous prenez de ce produit, ça vous évitera tel problème. Scientifiquement, ils ont dit c'est bon. Et scientifiquement, après, on a vu que c'était, non seulement c'était pas vrai les résultats, mais c'était nocif, c'était tout à fait contraire. Regardez l'histoire de la biosphénol, c'est bien comme ça on dit, hein, biosphénol A, qu'on trouve dans les biberons, dans le plastique, d'accord? Ben, combien de générations d'enfants, hein, ils ont utilisé ça dans les biberons qu'on passe au micro-ondes? Le micro-ondes, c'est une autre histoire encore, d'accord? Mais c'est pas le cours de Montorfifine, d'accord? Mais pour qu'on comprenne que, voyez toutes ces erreurs, et disent que maintenant la biosphénol, ou biosphénol, je ne sais pas comment on dit ça, ça provoque l'obésité chez les enfants. Un bébé qui a été nourri avec un biberon passé 1000 fois au micro-ondes durant 7 ans, ben ça provoque, ça donne un terrain favorable à l'obésité, et c'est ce qu'on voit un peu dans les sociétés, entre guillemets, dites développées. Hein, développées juste sur le plan financier, mais pas d'intelligence, ni spirituelle, Allah Musta'an. D'accord? Donc, scientifiquement, il y a des gens qui se basent sur la science. La science, n'a pas tout découvert, et ils sont loin. Regardez le nombre d'espèces animales, même humaines, le nombre d'espèces animales, végétales, découvertes de jour en jour. Et on se rend compte qu'on ne connaît, on a découvert que 10% de l'espèce, de telle espèce, des insectes ou telle chose. Il reste encore 90% à découvrir. Et on prétend que le monde existe tout seul, qu'il n'y a pas de créateur, alors que dans subhanallah, dans l'atmosphère qui t'entoure, tu n'as découvert que 10% de la création d'Allah. Il y a 90% que tu ne sais pas. On ne sait même pas ce qui se passe dans notre corps. Depuis quand? 50, 60 ans? On va dire un siècle qu'on connaît un peu les cellules, les globules rouges, les globules blancs, etc., etc. D'accord? On a découvert. Mais avant, on ne savait rien. Qui connaissait? Est-ce que le fait qu'on ne savait pas, ça ne marchait pas? Il y a une personne on raconte le cas d'une personne qui avait un problème cardiaque, dit que c'est incroyable. Il a des artères bouchées, mais des artères très importantes qui sont bouchées, mais le cerveau humain, enfin le cerveau, le cœur, je ne sais pas comment on dirait, l'organisme trouve des raccourcis. Quand il voit qu'il y a une artère qui est bouchée, l'organisme trouve des petites artères qui pourront quand même irriguer le cœur. Mais est-ce que c'est avec notre accord, ça? Est-ce que notre cœur nous a demandé une autorisation verbale? Je suis signé monsieur un tel, autorise mon cœur à utiliser telle voix pour continuer à irriguer mon cœur? Non, ça c'est la création d'Allah. Donc scientifiquement, il y a plein de choses qu'ils ne savent pas, que nous ne savons pas, et il y a plein de choses qu'ils pensent savoir, mais qu'ils ont complètement erronées. Donc c'est vraiment pas sur la logique humaine et science que nous allons comprendre la grandeur d'Allah. Tout est basé sur Al-Ghaib. Et puis il y a des points communs, il y a des fois où, avec les découvertes scientifiques, hein, ça renforce notre conviction, notre iman en Allah. Hein, c'est pour ça que dans le Coran, Allah Ta'ala souvent cite des versets, ce qu'on appelle des ayats de i'jaz, des ayats miraculeux, on va dire, hein, qui parlent de la création des cieux, création de la terre, qui parle de la procréation, hein, comment est-ce qu'un enfant naît, comment est-ce qu'un embryon se développe dans le ventre d'une maman, hein, à une époque, il y a 1500 années où il n'y avait pas de microscope, il n'y avait pas d'électricité, rien. Donc ces versets-là, hein, nous font comprendre que c'est Allah le Créateur. Ce qu'il a révélé, ça émane de lui. Et ça, ça permet à une personne de conjuguer sa foi et les sciences. Et donc, ce qu'on doit bien retenir, c'est que est-ce qu'ils ne pensent pas qu'un jour ils seront ressuscités? Le fait d'avoir la foi sur Al-Ba'th, la résurrection, c'est une des bases de la foi. Et pour croire à ça, il faut croire à 100% à l'invisible. Et ça c'est un peu plus technique. Les Mufassirin disent que le terme qui est utilisé Allah yavunnu, et yavunnu en arabe, c'est, ça vient du verbe vanna yavunnu, c'est penser. Et même dans la traduction littérale, ils disent cela, ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités? Mais les Mufassirin disent que dans l'arabe, dans la langue arabe, il y a des fois où le terme penser est utilisé pour une conviction. Ay al-yaqin. Mais ça, il faut le savoir, ça quand même. Et ça, il faut avoir des connaissances solides en langue arabe et connaître la langue du Coran. Hein, comment est-ce qu'Allah Ta'ala, hein, il énonce les versets du Coran pour comprendre que dans quel cas yavunnu, le verbe yavunnu est utilisé au sens propre de penser, et dans quel cas il est utilisé pour une croyance avec conviction. Et ça, c'est la profondeur de la langue arabe. Et ça nous fait réaliser également que une personne ne peut avoir une compréhension complète du Coran sans qu'il y ait quelqu'un qui l'assiste, sans qu'il ait recours à l'assistance d'un savant. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Il y a des fois, il y a des gens qui se disent que ben Moïse Abla, tout banal est pareil, il n'écoute pas autre, j'achète des livres. Oui, c'est bien, on achète des livres, mais le livre, hein, il va vous donner certaines informations, mais il y a des fois, on va être coincé. Il y a des hadiths qui vont dans ce sens, des hadiths qui vont dans l'autre sens. Maintenant, comment savoir, comment on fait jam, comment on fait tarjih dans quelqu'un, etc., etc. C'est des notions un peu plus techniques, et on a toujours besoin d'une personne pour nous assister, pour comprendre, hein, les points un peu plus complexes des versets du Coran, ainsi que des textes prophétiques. Un petit exemple, parce qu'on est en train de parler de ça il y a 2 semaines dans un autre programme concernant les grands signes de Qiyama. On parlait du retour de Isa alayhi salam, hein, qui va tuer l'antéchrist Dajjal, et on expliquait que Isa alayhi salam, on essayait de comprendre combien de jours est-ce qu'il va rester sur ce dunya, combien de jours il va rester sur ce monde après la mise à mort de Dajjal et la destruction de Ya'juj wa Ma'juj. Parce qu'il y aura une grande période de baraka, de bénédiction, après la mort de Dajjal et après également la destruction de Gog et Magog. C'est-à-dire les pires des signes de Qiyama seront passés. Et là, il y aura une période de postérité, de baraka, de bénédiction énorme. Donc, pour comprendre combien d'années Isa alayhi salam, donc Jésus-Christ, le retour de Jésus, combien de temps il va rester sur cette terre, il y a des hadiths qui parlent de 7 années, Saba'a. Et il y a d'autres hadiths qui parlent de 40 années. Donc, il y a une contradiction apparente. Mais lorsqu'on lit les commentaires des grands muhaddithin, des commentateurs de hadith, à la base, l'imam Nawawi, Ibn Hajar, Al-Asqalani, etc., même Ibn Kathir qui a fait des commentaires, on se rend compte qu'eux, ils ont compris le sens des 2 hadiths et ils disent clairement que dans la langue arabe, à l'origine, le terme sab'a, 7, le terme 7 est parfois utilisé pour, pas pour dénombrer quelque chose, mais pour indiquer un grand nombre. Le terme sab'a, ça veut dire 7. On est d'accord. Mais il y a des fois où on utilise en arabe sab', le chiffre, mais ce n'est pas le chiffre. C'est pour indiquer un grand nombre, mais sans qu'il y ait précision, mais que c'est quelque chose d'important. Une masse importante. Mais ça, subhanallah, pour arriver à ce genre de compréhension, il faut vraiment avoir un niveau de ilm. D'accord ? Donc là, nous voyons que la langue arabe, elle est subtile, elle est magnifique. Ce n'est pas pour rien si Allah Azza wa Jal a choisi cette belle langue pour être la langue de révélation du Coran. Donc, « Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'azim » Hada. Liyawmin 'azim. La deuxième mise en garde, c'est quand Allah Ta'ala a déjà rappelé à l'espèce humaine que autant d'erreurs que vous faites, n'oubliez pas qu'un jour vous serez ressuscité. Allah Azza wa Jal fait une deuxième mise en garde. Il précise que ce jour-là, c'est un jour terrible. Et on avait dit la dernière fois que Allah Azza wa Jal lui-même a qualifié ce jour de Yawmin 'azim. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il donne certaines descriptions. On ne va pas tout citer parce que il y a beaucoup de hadiths qui parlent des difficultés, des ahwal, du jour des comptes, mais juste une seule étape, l'étape avant les comptes. On va juste parler, parce que comme on a parlé de annahum mab'uthun, hein, quand on parle d'être ressuscité, on parle du monde de l'au-delà. Et la première étape de l'au-delà, c'est la résurrection. Bon, certains disent que la vie dans la tombe de Alam Barzakh, ça fait partie bien sûr, mais lorsque on passe dans l'autre monde, physiquement aussi, la première étape c'est la résurrection. Ibn Kathir donne quelques hadiths, quelques descriptions des difficultés de l'étape de la résurrection. Et il décrit, Prophète Ali salatu wassalam a dit que hatta innal araqa la yuljimu ar-rijala ila ansafi adhanihim. On connaît le hadith qui dit que le jour des comptes, إذا كان يوم القيامة أدنية الشمس من العباد حتى تكون jusqu'à la fin du hadith, le jour des comptes, hein, le soleil sera rapproché des êtres humains. Là, en ce moment, en été, on a 34, 35, 36, ça peut arriver 40 degrés et on se plaint. Hein, la chaleur est étouffante, on ne supporte pas, il y a des gens qui s'évanouissent s'ils n'ont pas d'eau. En Arabie Saoudite, à Makkah, à Madina, on a déjà vu, à l'époque, on étudiait là-bas, après Salat al-Dhuhr dans la voiture, le thermomètre arrive à 52 degrés. 52 degrés, pas à l'ombre, hein, au soleil. C'est une température terrible. Et normalement, à 50 degrés, on n'a plus le droit de sortir. Normalement, à 50 degrés, il y a un bulletin, comme ici, il y a des bulletins de forte pluie ou de houle. Là-bas, à 50 degrés, normalement, on fait passer le message qu'il ne faut pas sortir. Donc, il n'y a pas besoin d'aller à l'école, travailler et tout. D'accord ? Bref, il faut qu'on comprenne la chaleur, comment elle est difficile à supporter. Le jour des comptes, Allah Azza wa Jal va faire en sorte que le soleil sera au-dessus, vraiment visible, et au-dessus de la tête de chaque personne qui sera ressuscitée. Et ça, on doit avoir une conviction inébranlable là-dessus. Mais ça va à l'encontre également de la science. Parce que aucune vie, ça peut être humaine, animale ou végétale, ne peut supporter une chaleur dépassant 100-150 degrés. Impossible. Et un corps qui se rapproche de, je ne sais pas, 1000-2000 km du soleil sera immédiatement brûlé et désintégré. Mais le jour des comptes, les lois physiques ne sont plus les mêmes. Ça, c'est les lois physiques qu'Allah a fixées pour régir ce dunya, le monde où on vit. Mais le jour des comptes, les lois physiques, ce sont les lois qu'Allah décide. Et là-haut, la notion de temps n'est plus la même. La notion d'espace n'est plus la même. Et les lois physiques, le froid, le chaud, sont totalement différentes de celles de ce dunya. La notion de temps, quand on dit que les gens vont rester, que la résurrection dure 50 000 années, est-ce que c'est imaginable ça? 50 000 ans. Quand on dit que les pauvres, les musulmans pauvres, encore une fois, hein, pour ne pas refaire les mêmes erreurs que la fois, pas les pauvres musulmans, il n'y a pas de pauvres musulmans. Les musulmans, hein, ils sont riches, riches de cœur. Un musulman qui n'a pas les moyens, le jour des comptes, entre au paradis 500 années avant un musulman qui était riche. Et on parle de musulmans qui étaient dans le droit chemin, hein, qui ont fait de bonnes actions, qui ont tous les deux mérité le Jannah. Celui qui était pauvre, entre 500 années avant. Mais quand on parle de chiffres aussi énormes, 500 années, c'est comme si que là on est au 20e siècle, là on est au 21e siècle, ça nous ramènerait à 20, 19, 17, 16e à l'époque de Rédia Louis XIV, hein, c'est à peu près cette époque, hein, ça nous ramène à 500 années avant. Mais attends, entre deux musulmans, deux frères qui habitaient Saint-Denis ou la Tanière, pareil, dans le même quartier. Lui, il était un peu plus riche, il était un peu plus pauvre. Il dit, attends, mais 500 années. Il dit, la notion de temps, ça ne nous appartient plus. Là-haut, c'est Allah qui décide. Parce qu'il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps et c'est l'éternité. Qu'est-ce qui provoque la mort des cellules? C'est le vieillissement. Et le vieillissement, c'est par rapport au temps. Mais le jour des comptes, Allah Azza wa Jal présente, on avait vu ça, je crois, dans le Surat al-Buruj, Allah Ta'ala présente aux gens du paradis la mort. Et aux gens de l'enfer, la mort, selon certaines sources, sous la forme d'un bélier. Et Allah Ta'ala va ordonner à ce que la mort meure. Et les gens du paradis vont exulter de joie, sachant que maintenant, la mort, ils vont rester éternellement dans ses plaisirs. Et pour les gens de l'enfer, ce sera la pire des nouvelles, la catastrophe plus grave encore que ce qu'ils sont en train de subir, parce que c'est synonyme de souffrance éternelle. Donc la notion de temps n'est plus la même, parce qu'il n'y a plus de temps. La notion d'espace, l'espace est illimité. Lorsqu'on dit que, si je ne me trompe pas, dans certaines choses, on dit qu'une personne, hein, pour visiter le domaine qu'Allah lui accorde de le paradis, ça ne lui prend pas 2000 années, 2000 ans pour visiter, pour regarder toute l'étendue de son territoire. Et que la personne la moins récompensée, l'équivalent de je ne sais combien de fois ce monde et tout ce qu'il contient. C'est-à-dire que la notion d'espace, c'est des trucs extraordinaires. Ça n'a plus rien à voir avec notre conception de l'espace. Les lois physiques ne sont plus les mêmes. Et ça, c'est en rapport avec le hadith qu'on cite. La loi physique dit que si vous avez un espace aplani, vous versez de l'eau, l'eau va s'étaler. Le jour des comptes, non. Il y aura des gens qui seront dans une même plaine qui sera toute plate, hein, la plaine de résurrection. Il y a des gens qui auront de l'eau, la transpiration jusqu'aux oreilles, d'autres au niveau des chevilles, d'autres rien du tout. Alors qu'ils sont dans un même endroit où il y a la tarafiha iwajan wa la amta, ni d'endroit surélevé, ni d'endroit où il y a des endroits plus bas. C'est-à-dire tout le monde est sur le même niveau. Mais il n'y a plus la loi physique de pesanteur qui veut que les liquides vont s'équilibrer par rapport à la surface. Tout ça, ça n'existe pas parce que c'est Allah qui prend les décisions, c'est les règles d'Allah Azza wa Jalla. Donc pareil, le corps normalement brûle par rapport à la chaleur, le corps ne brûlera pas par rapport au soleil, à proximité du soleil, mais les corps vont souffrir. Les corps vont souffrir. Donc, le prophète dit que le jour des comptes, le soleil sera rapproché et les gens, fayakununa fil araqi ka qadri a'malihim. Les gens vont souffrir du soleil et vont transpirer en fonction de leur a'mal, en fonction de leurs actions, donc bonnes ou mauvaises. Minhum man ya'khudhu ila aqibayhi et d'autres ila rukbatayhi et d'autres ila etc. etc. Il y a des gens qui auront la transpiration au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau de la hanche et de le hadith qu'on a dit tout à l'heure, jusqu'au niveau il a anfafi azanihim, jusqu'à leurs oreilles. Donc ça c'est en fonction des péchés que la personne a accomplis sur ce dunya. Donc ça c'était, on va faire un peu plus court, une description des difficultés de cette première étape de l'au-delà qui est al-ba'th. Et Abu Huraira radhiallahu anhu, c'est le hadith qui est rapporté par Imam Muslim, fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, qui est également versé, un jour qui aura l'équivalent de 50 000 années. Dans un hadith également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, kayfa anta sani'un fi yawmin yaqumu an-nas, comment réagirez-vous, que ferez-vous en ce jour terrible où les gens seront ressuscités, seront debout. La ya'tihim fihi khabarun min as-sama' wa la yu'manu fihi bi'amr. C'est-à-dire, en ce jour-là, il n'y aura aucune nouvelle qui viendra du ciel. Allah Azza wa Jal ressuscite les gens, mais Allah ne leur adressera pas la parole et il n'y aura aucun. C'est-à-dire, les gens restent debout, immobiles. Les gens restent debout, immobiles, sans rien faire. Dans certaines versions, cette étape va durer 40 années. Où les gens vont rester debout avec le soleil au-dessus de leur tête et immobiles sans qu'il n'y ait aucune autre étape qui n'intervient. Et dans cette situation de difficulté, les mohadithines disent qu'il y aura certains koufars qui vont demander « Oh Allah, amène-nous vers l'enfer. Oh Allah, enlève-nous de cette difficulté même s'il faut aller dans le Jahannam. » C'est-à-dire les gens veulent s'échapper, veulent fuir cette position, cette situation qui est la première étape et l'étape la moins difficile la résurrection. Parce que ceux qui vont, les étapes qui vont venir après, ce seront des étapes encore plus compliquées, encore plus difficiles. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de demander protection. Hadith d'Abu Daoud, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit que le prophète avait l'habitude de demander à Allah azza wa jal la protection contre l'étroitesse du jour des comptes. Les gens seront entassés les uns sur les autres. En plus d'avoir cette chaleur du soleil, les gens seront, et a dit, celui qui trouve assez de place pour ses deux pieds, c'est déjà quelqu'un qui est, on va dire, quelqu'un qui a eu quelque chose. Imaginez quand vous êtes dans le bus, et qu'il fait chaud, il n'y a pas la clim, et il y a beaucoup, et en plus il y a beaucoup de monde, vous êtes serré, que tout le monde transpire. C'est vraiment horrible, d'accord? Mais pensez le jour des comptes, et toute la création d'Allah sera ressuscitée, et les gens seront serrés les uns sur les autres, avec les difficultés liées au soleil. Et donc le prophète Ali salat wa salam demandait toujours protection contre ce jour. Hadith qui dit également anna rasoul sallallahu alayhi wa sallam kana yaftatihu qiyam al-layl. Hadith Aisha radhiyallahu anha qui dit que le prophète sallam lorsqu'il faisait la prière de la nuit, il commençait en disant yukabbiru ashra. Il disait 10 fois Allahu akbar wa yahmidu ashra. Et il disait 10 fois alhamdulillah wa yusabbihu ashra. Et il disait 10 fois subhanallah wa yastaghfiru ashra. Il disait astaghfirullah 10 fois, et ensuite il disait Allahumma firli wa hadini, oh Allah, accorde-moi ton pardon, accorde-moi ta guidée, warzuqni wa afini, protège-moi et accorde-moi la subsistance, wa yata'awwadhu min dhiqil maqam yawm al-qiyamah, et il demandait protection contre l'étroitesse de l'au-delà, les difficultés qu'il y a dans l'au-delà. Et en commentaire les muhaddithin disent, est-ce que il nous est déjà arrivé, nous musulmans, de demander protection contre les difficultés de l'au-delà? Est-ce qu'on y songe? Est-ce que ça fait partie de nos priorités? Est-ce que ça fait partie de nos angoisses, de nos craintes? Nous, on se soucie pour la fin du mois, on se soucie pour notre CDD, notre CDI, notre travail, notre vie familiale, la santé, mais est-ce qu'on se soucie pour les difficultés de l'au-delà? Et si quelqu'un, si nous avions vraiment iman en Allah, iman sur la résurrection, ce seraient les choses qui nous empêcheraient de dormir. Les sahaba disent qu'ils n'arrivent pas à dormir parce qu'il a pensé au feu de l'enfer, ça l'empêche de dormir. Nous, on ne dort pas si on a un examen le lendemain. Quelqu'un qui a son permis de conduire, l'examen a passé le lendemain, il ne va pas dormir toute la nuit parce qu'il est angoissé. Il sait que c'est une étape importante. Les sahaba, ils ne pouvaient pas dormir lorsqu'ils pensaient à la punition, à la chaleur, aux difficultés de l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah lui a tout pardonné déjà, il demandait régulièrement tawba à Allah et protection contre les difficultés de l'au-delà. Et les muhaddithins disent que quand nous voyons ce genre de hadith et ces versets, ça nous fait réaliser qu'il y a des moments difficiles à vivre dans l'au-delà, et ça doit provoquer chez nous une prise de conscience. Une prise de conscience qui ne doit pas être altérée par la vie ambiante. Très souvent, avec la routine, on oublie tout ça. Avec la routine, on oublie les difficultés de l'au-delà et on oublie la notion de péché, la notion de désobéissance envers Allah. D'où l'importance de lire régulièrement le Coran et sa traduction. Lire régulièrement les hadiths concernant l'au-delà. Parce que plus on lit, plus on aura conviction. Et nous verrons la prochaine fois que une des reproches qui est faite à ces personnes-là, les transgresseurs, c'est qu'ils ne croient pas au yukadzibuna biyawmiddin, ils ne croient pas au jour de la résurrection. Et on va voir que quand une personne sombre dans les péchés, c'est que cette personne-là intérieurement ne croit pas réellement au jour des comptes. C'est pour ça que lorsqu'Allah Ta'ala parle de la foi en Allah, Allah Azza wa Jal parle immédiatement après de la foi de sur l'au-delà. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Toujours qu'on parle d'Iman Billah, il y a Iman Billyawmi l'Akhir, parce que les deux sont importants. Si on n'a pas conviction sur l'au-delà, on ne fera pas l'adoration d'Allah comme il le faut et on n'arrêtera pas les péchés réellement avec conviction. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Donc on a vu aujourd'hui un petit récapitulatif de Sourate Al-Mutaffifin, des premiers versets, et on a vu une description de ce verset qui parle d'un jour terrible. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. On a parlé de la résurrection, et on a parlé de yawmin 'azim. On a parlé d'une étape de la résurrection et quelques aspects des difficultés de l'au-delà. Et la prochaine fois, On va voir, Inch'Allah, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, lorsque les gens seront présentés devant Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah Ta'ala donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, à nous tous de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs, que ces enseignements-là, on les intègre, et que lorsqu'on va écouter Sourate al-Mutaffifin ou le lire nous-mêmes dans la salade ou dans le, en lisant le Coran, Inch'Allah, que ces enseignements-là nous reviennent à l'esprit et qu'on puisse se concentrer dans notre salade et qu'on puisse transformer ces paroles en action et que cela apporte quelque chose de bénéfique dans notre vie. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullah khair.